avec il faut dire qu'on est tous là grâce à elle. On est là ce soir pour l'entendre et on est là grâce à elle. Une belle journée de juillet, il y a 25 ans, quand je l'ai rencontrée, ma vie a changé à jamais. Et elle-même, elle venait de peu de recevoir la transmission, Liam Boroshi, devenant la première premier successeur de lignée White Plum en Europe. Et depuis, elle a créé dans la Sangha et le centre d'Anna à Montreuil et continuer tous les jours, tous les années, année après année, à partager ce chemin, partager les dharmas avec innombrables pratiquants. Et donc, sans elle, on ne sera pas là. Et donc c'est un plaisir énorme, un grand plaisir de la voir ici, de l'accueillir ici, dans ce centre qui existe parce qu'elle a fait le centre qu'elle a fait et j'ai pu pratiquer avec elle depuis 25 ans et puis avec les autres. Ce soir elle va nous parler de la bienveillance, je crois, non?
Je crois.
Ok. Et donc, je vous souhaite un bon talk avec Rocher. Merci.
Merci, Aurélie.
Wow, ok. Ça pose tout de suite la situation. C'est vrai. La situation de notre lignage et de l'importance du lignage dans notre tradition. Je mesure qu'il y a dans cette audience que j'ai des relations très différentes avec cette audience. Certains sont mes élèves, d'autres sont des élèves d'élèves, certains sont des amis. Et nous sommes dans un lieu de pratique qui effectivement est dû à cette transmission qui a eu lieu depuis 2500 ans dans notre tradition. Oui, quand Amy m'a invité, elle m'a demandé quel thème j'aimerais partager avec vous. Plus fort. Ah, mais venez plus près alors. Rapprochez-vous parce que j'ai du mal à parler très fort.
Oui, vous pouvez vous mettre au milieu, il y a une place là.
Venez plus près parce que j'ai du mal autrement à rester vraiment très en contact avec l'intérieur et en même temps à aller loin. Rapprochez-vous. Et quand même, faites-moi signe si vous n'entendez pas. Il y a une place ici.
Il y a une place ici. Viens, viens.
Oui, donc immédiatement, mais ça m'a pris vraiment quelques secondes pour décider. En fait, je veux parler de la bienveillance. C'est au cœur de j'ai l'impression que c'est après des années de pratique, et ça fait, l'année prochaine, ça fera 40 ans que j'ai rencontré le bouddhisme et que je m'y suis vraiment jetée à corps perdu, je dirais, dès que je l'ai rencontré. C'était d'une telle évidence que c'est tout ce que je voulais faire. Et après toutes ces années de pratique, je pense que la bienveillance, c'est vraiment ce qui se développe très profondément et qui est essentiel dans nos vies et dans notre réalisation, je dirais. Récemment, je discutais avec mon maître et à un moment, il me dit « Bon, après toutes tes années de pratique, qu'est-ce que tu penses qui est au cœur? Qu'est-ce qui est vraiment important ?» Et je lui ai dit « Par la bienveillance. » Lui, il m'a dit « Moi, je pense l'amour. » Oui, je pense aussi ça. Mais bon, l'amour, c'est très chargé, c'est... Il y a tellement de notions différentes et tout ça que, bon, voilà, quelquefois je préfère parler de la bienveillance, bien que, évidemment, ça touche l'amour, ça touche la compassion, ça touche l'empathie, ça touche... Voilà. Dans notre tradition, il y a quelqu'un qui est très important, c'est Dogen Zenji, c'est un maître... Un maître zen qui était japonais, qui est parti en Chine pour explorer le bouddhisme, qui était très peu répandu au Japon à l'époque, un peu, mais très peu, certaines formes de bouddhisme. Il est allé en Chine et il est rentré au Japon. Et c'est lui qui a vraiment instauré, établi le Japon, le bouddhisme au Japon. Il est directement dans notre lignage. Il y a une histoire que j'aime beaucoup avec Dogen Zenji. Dogen Zenji était très malade à la fin de sa vie. Il est mort en 1254, à 54 ans. Et il y a cet épisode qui est raconté par un étudiant, comment on dit senior en français, un de ses principaux étudiants, principaux élèves, et Tetsuki Kai. Et à la fin de sa vie, Dogen Zenji était très malade. Et il avait fondé un temple qui s'appelait Eiji, qui est un des temples de référence dans notre lignage au Japon. Et il avait été invité par le shogun de Kyoto pour essayer d'être soigné à Kyoto. Et il allait partir à Kyoto. Et juste avant de partir à Kyoto, où il va mourir d'ailleurs, il ne reviendra pas dans son monastère, il fait appeler Tetsugi Kai. Et il lui dit, c'est Tetsugi Kai qui raconte ça. On a ce récit directement de Tetsugi Kai. Et Dogen Zenji lui dit, je suis très satisfait de la manière dont tu gères les affaires du temple. Et je suis très satisfait de la pratique, de ta pratique et de ton esprit de quête de l'enseignement du Bouddha, de l'enseignement du Bouddha. Mais je pense que tu as besoin de développer un cœur grand maternel. Je ne veux pas dire un cœur. It's a grandmotherly kind, a grandmotherly heart in English. Mais je cœur de grand-mère. Mais un cœur peut-être grand maternel, c'est peut-être quelque chose qui s'ajoute, quelque chose de plus affectueux, je trouve. Enfin, c'est ma traduction. Et continue en disant, et je suis sûre qu'avec l'âge, tu le développeras. Et Tetsugi Kai fait remarquer que c'est la deuxième fois que Dogen Zenji lui mentionne ce cœur grand maternel. Et que c'est vraiment ça, Dogen Zenji, à ce moment-là, pense que c'est ça qui manque à son élève, alors que sa réalisation, satisfait de sa réalisation, satisfait de la manière aussi dont il gère les affaires du temple. Hein. Je n'ai pas non plus d'abandonner notre possibilité de fonctionner vraiment dans le monde. Hein.
Et c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup touchée, qu'à la fin de sa vie, le Genzenji qui va mourir et qui le sait, c'est là-dessus qu'il insiste. Et en y réfléchissant, bon, comme je disais, dans notre lignage, la transmission est quelque chose de très important parce qu'elle nous donne vraiment le sentiment que toute cette pratique a été transmise de maître à disciple depuis des générations. Et récemment, j'ai fait une méditation guidée à mes élèves et je vous demande d'imaginer le thème de cette méditation. Le Bouddha Shakyamuni, puisque dans notre tradition, le Bouddha est une figure extrêmement importante, fondateur. Le Bouddha a eu cette réalisation extrêmement profonde après cette année de quête sur l'arbre de la Bodhi. Et il a dit, juste après cette réalisation, c'est ce que les textes disent, il a dit, moi, l'univers tout entier et tous les êtres atteignent la voie en même temps, simultanément. Et après cette... Bon, c'est difficile de savoir quelle est la réalisation exactement. Je pense que tous très humbles par rapport à une réalisation aussi vaste. Bien qu'on puisse en avoir éventuellement des lueurs, bien sûr. Après cette réalisation, il a beaucoup hésité à en parler. Et l'histoire dit qu'il a, pendant 49 jours, il a hésité à qu'est-ce qu'il allait faire. Et puis au 49e jour, il a rencontré un de ses anciens condisciples, si on peut dire, qui avait fait cette quête, qui lui a demandé, et il a commencé à parler. Et essayons d'imaginer qu'est-ce qu'il a fait parler. Hein. Qu'est-ce qu'il a fait, cette réalisation a été pleine, je veux dire, beaucoup d'entre nous, on a commencé cette pratique de méditation pour nous-mêmes. Hein. Parce qu'on avait des difficultés, parce qu'on avait des interrogations, des questions, des quêtes, des malaises, des un certain mal-être, quand on avait besoin de paix intérieure. Les raisons sont très différentes pour chacun. Peur de la mort, beaucoup de questions existentielles. Bon, les raisons sont différentes pour chacun. Et je pense que pendant un certain temps, on est très préoccupé par nous. Et c'est très bien comme ça. C'est très bien comme ça. On a besoin de vraiment de résoudre, ou de, en tous les cas, de faire face à certaines questions qui sont importantes. Et puis, à un certain moment, le Bouddha aussi s'est interrogé sur... maladie, le vieillissement, la mort, c'est ainsi qu'il a commencé sa quête. Hein. Et puis au bout d'un certain temps, ces 49 jours, il a décidé de parler. Et moi, j'ai vraiment le sentiment qu'à ce moment-là, il n'était animé que par de la bienveillance. Et de la bienveillance par rapport à tous les êtres de cette époque et de toutes les époques qui allaient suivre. Et il y a eu tellement d'époques qui ont suivi, et il y a eu tellement de maîtres qui ont continué à propager cette pratique, cette réalisation et ce désir de transmettre. Est-ce qu'on peut imaginer cette espèce de torrent de bienveillance à travers 25 siècles qui fait que cette pratique, elle est disponible maintenant dans cette pièce, dans ce pays et dans d'innombrables pays. Vous voyez, est-ce que je suis même capable de ressentir cette immense bienveillance de millions, milliards de gens qui ont vraiment dévoué leur vie à transmettre à faire cette pratique, à l'approfondir et à la transmettre. Et nous sommes les récipients de ça. Est-ce que je peux même ouvrir mon cœur pour recevoir cette immense bienveillance de milliers et de milliers et de millions de gens, de milliards, je ne sais plus. Hein. Dans mon expérience aussi, j'ai rencontré un maître et j'ai eu une connexion très forte avec lui. Et je crois que ce qui m'a vraiment le plus touchée avec lui, c'était sa bienveillance. Que j'ai testée sans arrêt. C'est-à-dire... C'est difficile aussi d'être le récipient d'une bienveillance pareille. Est-ce que je le mérite? Est-ce qu'il va s'apercevoir que finalement ça ne sert à rien? Est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que je le vaux? Est-ce que je suis suffisamment intéressante? Est-ce que... Voilà. On a énormément de difficultés. À accepter cette bienveillance. Et moi, je la testais sans arrêt. Je me dis, bon, là, ça va. Hein. Ça ne va plus passer, là. Et non, il était là. Ouvert, disponible. Veillant sur moi. En français, on a de la chance dans le mot bienveillant, hein, qui n'est pas la même chose en anglais. On a de la chance parce que il y a le mot veiller dedans, veillons, veiller, et il y a le mot bien. Okay. C'est vraiment veiller sur quelqu'un qui on veut du bien. Hein. Et le mot veiller, c'est un mot merveilleux. Hein. C'est-à-dire c'est être là, être présent, être attentif, être disponible. En même temps sans interférer, hein, c'est-à-dire en laissant l'autre avoir le cours de sa vie, de son développement, mais être là, attentif, présent, veillant, quoi, vraiment. Et veillant sur le bien de cette personne. Je trouve qu'en français, c'est bien traduit le mot bienveillant. En anglais, on va kindness.
Bénévolence,
oui. Voilà. Mais vraiment, c'est le mot de veiller. Et je dirais que toute notre transmission, elle est basée là-dessus, sur cette bienveillance, où il s'agit d'accompagner l'autre dans son développement, dans son chemin, dans sa réalisation, dans sa quête, dans ses découvertes, de l'accompagner dans cette proximité, dans cette intimité, et en même temps de le laisser être là, de le laisser suivre son propre chemin. Hein. Le temps que nous avons passé ensemble avant, j'ai juste à s'asseoir, est quelque chose de très important. Chacun était certainement dans un espace différent, avec des pensées, des sensations, des émotions, voilà, chacun personne. Et en même temps, on était tous ensemble, et l'immobilité, le silence de chacun nourrissait quelque chose qui est nourrissait cet espace, en fait, je dirais, dans lequel on peut, sur lequel on peut s'appuyer, hein, c'est-à-dire dans lequel on est soutenu, je dirais, hein, et dans lequel aussi chacun a son propre développement. C'est un espace qui est silencieux. Souvent, la bienveillance peut s'exprimer comme ça. Hein. Juste cette présence, en fait. Je pense aussi que la bienveillance, elle a pas besoin de grandes démonstrations non plus. Hein. Ça peut être, mais vraiment, un geste très simple. Ça peut être juste un mot. Ça peut être juste un sourire. Ça peut être quelque chose d'extrêmement discret et en même temps qui nous accueille profondément. Récemment, nous avons fini une retraite hier. J'avais été absente pendant plus d'un mois, donc il y avait beaucoup de monde. Et c'était très fort de nous asseoir tous ensemble, de nous retrouver là, dans un silence, et en même temps de partager quelque chose qui était profondément clair, bien difficile de mettre des mots dessus. Et à la fin de cette retraite, nous avons eu une cérémonie de la transmission des préceptes, dans laquelle il est tellement évident que cette transmission qui nous arrive dans le Shakyamuni Bouddha, hein, et qui a été transmise de génération en génération comme ça, il est tellement évident que cette transmission, elle est due à la bienveillance de tous ces gens qui nous ont précédés. C'était palpable, je veux dire, dans la salle. C'était palpable qu'on bénéficiait tous de ça. Et dans notre cérémonie de préceptes, on commence, comme d'ailleurs je conseillais, comme je sais chez les bouddhistes tibétains, on commence par prendre refuge dans le Bouddha, dans le Dharma et dans la Sangha. Alors, prendre refuge dans le Bouddha, c'est-à-dire c'est vraiment, dans le Bouddha, dans le Dharma et la Sangha, c'est vraiment accepter qu'on a besoin de soutien, qu'on a besoin d'aide. Hein. Shanyam Trungpa disait, parce qu'on est des réfugiés. On est des réfugiés. On a perdu notre terre, donc voilà, on se reconnecte. Hein. Et on prend refuge dans le Bouddha, donc on prend refuge dans cette image, dans ce personnage, évidemment. Mais à travers lui, on prend refuge en tous les maîtres qui ont continué son enseignement, qui ont continué sa pratique jusqu'à celui qui est vivant devant nous. Et on prend refuge dans l'enseignement, mais aussi une autre manière de dire les choses, c'est cette immensité de comment je parlais, de cette bienveillance absolument immense, elle nous manifeste immédiatement dans notre expérience à quel point on est reliés les uns aux autres. Et quand je parle de tradition, il ne s'agit pas d'une tradition étroite. Elle connecte avec tous les chercheurs de tous les temps. C'est-à-dire cette incroyable connexion que nous avons et qui se manifeste ainsi, qu'on fait partie vraiment d'une énorme foule, je dirais. On pourrait même dire que c'est énorme, c'est vaste, c'est l'unité, c'est la totalité même, je dirais. Hein. Et on prend refuge dans le Dharma, on prend refuge dans l'enseignement du Bouddha, mais une autre manière de regarder les choses aussi, c'est qu'on prend refuge dans la diversité. Nous sommes tous uniques et nous sommes tous un. Nous faisons tous partie de cette totalité. Nous avons tous des caractéristiques humaines, dans notre cas, d'êtres vivants, dans le cas des animaux, parce que je pense qu'il faut faire vraiment entrer maintenant les animaux clairement désir en fait de faire le bien, hein, parce que la bienveillance c'est profondément le désir de faire le bien, hein, et qu'on ne peut pas laisser passer des zones d'ombre comme ce qui se passe en ce moment par rapport aux animaux. Je pense que vraiment inclure les animaux dans les êtres vivants, donc dans cette énorme diversité où chacun a sa place. Chacun d'entre nous a sa place, et en même temps, nous faisons partie de cette totalité. Donc, prendre refuge, c'est vraiment accepter de recevoir cette bienveillance et accepter aussi de partager, d'avoir la bonne volonté et le désir profond, je dirais, de faire le bien. Peut-être que ce qui nous touche le plus dans le fait que au moment quand on est capable de recevoir cette bienveillance, c'est qu'on est en contact avec notre propre désir de faire le bien, qui est une chose extrêmement précieuse et extrêmement profonde, qu'il faut cultiver, comme disait Dogen Zenji Aite Tsubikai. Et dans notre tradition, dans la tradition bouddhiste, je dirais, il y a des méthodes pour cultiver cette bienveillance. Et une des méthodes, c'est la méthode metta, la méthode d'amour bienveillant. Et cette méthode commence par la bienveillance vis-à-vis de nous-mêmes, qui est un sujet qui est extrêmement important. Ça fait vraiment partie de cette réflexion sur nous-mêmes. Comment je me traite moi-même? Quelle est cette... Est-ce que je suis consciente de ce juge, de cette évaluation très fréquente, je dirais, hein, par rapport à cet individu-là? L'entraînement dans cet amour bienveillant, et commence par s'entraîner à avoir de la compassion pour soi-même. S'il n'en a pas un sens de compassion pour soi-même, il est difficile d'avoir une vraie bienveillance et compassion pour les autres. Ça peut arriver en même temps. Il ne s'agit pas de se dire je vais commencer à avoir de la bienveillance pour les autres quand j'en aurai suffisamment pour moi-même. Il ne s'agit pas de ça. Hein. Mais la bienveillance vis-à-vis de soi-même est quelque chose qui est difficile et dans lequel on est extrêmement. Il y a énormément d'obstacles, je dirais. Hein. Pour des tas de raisons, pour aussi parce qu'on a très grande exigence vis-à-vis de soi-même, certainement, et en même temps une très grande complaisance, les deux. Mais cette compassion, cet amour bienveillant vis-à-vis de soi-même, c'est absolument primordial, je dirais. Ça vous parle ? Vous voyez ce que je veux dire ?
Il faut déjà se rendre compte qu'on se maltraite, ce qui n'est pas évident du tout.
Oui, absolument.
C'est pas très clair, en fait, qu'on se maltraite.
Oui. C'est pour ça que je pense que l'assise, elle est extrêmement, enfin l'assise, la méditation, elle est extrêmement importante parce que on se rend compte de beaucoup de choses dans la méditation. Une fois que l'esprit s'est un peu calmé et que bon, on s'est rendu compte que d'ailleurs que l'esprit était très agité, enfin on a certaines méthodes pour calmer l'esprit. Il y a un petit peu plus d'espace. Il y a des pratiques de méditation, par exemple, où il s'agit de, pour calmer son esprit, de compter sa respiration. Détail très simple. J'essaye de compter ma respiration jusqu'à 10. Je suis tellement distrait que j'arrive à 3 ou 4 et que voilà. Qu'est-ce que je fais là ? À ce moment-là, où je réalise que je ne suis même pas arrivé à compter jusqu'à 10, est-ce que je reviens simplement au numéro 1 ? Ou bien est-ce que je me dis, mais ma pauvre petite, tu n'es pas encore arrivée, regarde ta distraction, etc. Cette chose complètement automatique de se juger. Là voilà, un exemple très simple, très clair. Qu'est-ce que je fais de ce que je considère finalement un échec ? Bon. Est-ce que je commente la chose ? Est-ce que je me donne des verges pour me battre, est-ce que je continue simplement en disant bon, ok, très bien, continuons. Voilà. Il y a des tonnes, c'est vraiment une prise de conscience. Dans tout ce dont je parle, évidemment, il s'agit d'une prise de conscience et la prise de conscience que j'ai beaucoup de mal avec moi-même, que j'ai beaucoup de jugements sur moi-même et qui sont des obstacles profonds. Par rapport qui sont des obstacles et qui sont aussi des bonnes occasions, en fait, de pratiquer la bienveillance. C'est difficile. La première chose à faire dans cette pratique, je donne ça comme exemple, c'est de trouver quelque chose que j'ai fait qui vraiment est bien, qui est pas une grande œuvre, pas quelque chose de spectaculaire, mais juste quelque chose que j'apprécie, que j'apprécierais très bien chez quelqu'un d'autre. Elle a été vraiment très gentille avec cette personne-là, elle lui a répondu d'une façon très gentille, elle a souri à cette personne dans le métro, quelque chose comme ça, vraiment quelque chose de simple. J'ai souvent des réponses des élèves qui disent « j'arrive pas à trouver quelque chose ». J'arrive pas à trouver quelque chose que j'ai fait qui soit sympathique, qui soit vraiment profondément gentil, et que je considère moi comme profondément gentil. Pas comme souvent on se dit « bon oui, j'ai fait ça, mais c'est normal, mais c'est naturel ». Non, mais vraiment quelque chose qui a résonné et qui a ouvert le cœur, comme quand je vois quelqu'un faire une action vraiment très simple mais bienveillante envers quelqu'un, waouh, le cœur s'ouvre. Bon, là, c'est... Voilà, mais c'est moi qui ai fait ça. Et souvent, les gens me disent, moi, j'arrive pas à trouver quelque chose. Voilà, ça, c'est la pratique. Et vous voyez, dans cette pratique, il y a un énorme lâcher-prise, en fait. C'est ça dont il s'agit là. C'est un énorme lâcher-prise de moi-je, de toutes mes opinions sur moi-je, de toutes mes attentes sur moi-je, de tout ce que je crois que je devrais faire, être, de toutes mes attentes. C'est un énorme lâcher-prise. Et c'est ce lâcher-prise qui est important dans la bienveillance. C'est que vraiment... voilà, je vois l'autre. Je n'ai plus mes attentes ni de l'autre, ni de moi-même. C'est que quelque chose, là, à ce moment-là, vraiment circule entre, dans ce lien qui s'établit. Nous sommes des êtres de lien, hein, c'est clair, je crois. Même si à certains moments nous avons envie de solitude, ou si nous sommes déçus, blessés, si on veut se retirer, profondément nous sommes des êtres de lien, et c'est très naturel. Nous sommes tous ici présents parce que quelqu'un a été profondément bienveillant envers nous quand nous sommes nés. Le plus souvent, c'est la mère qui s'en est occupée. Merci, Michaela. J'avais refusé un verre d'eau. C'est utile. Merci. Oui. Bon, nous savons tous maintenant que l'enfant qui naît ne peut pas survivre s'il n'est pas entouré d'amour, de bienveillance. Hein, nous savons tous cela. Les enfants meurent, sinon pas ça. Donc nous sommes tous ici parce que nous avons, dès notre essence, nous avons été entourés d'un minimum de bienveillance. Hein. Et le bébé qui naît, il n'a pas à apprendre à se relier à sa mère. C'est complètement naturel. Hein. C'est-à-dire que dès le départ, nous avons besoin de ce lien. Ce lien, il est naturel. Nous sommes des êtres de lien. Et la bienveillance, c'est quelque chose qui nous permet de ne pas rompre le lien. Vous voyez ? Et qui, par exemple, lorsque je suis capable d'avoir senti la bienveillance de mon maître, en fait, c'est ce qui était tellement important pour moi, c'est que le lien il continuait, qu'il n'y avait jamais de rupture de lien. Il n'y avait pas rupture de lien. Et c'est ça qui nous nourrit le plus. Voilà. Et dans la bienveillance, si c'est moi qui est active dans ma bienveillance, je maintiens le lien, quoi qu'il arrive. Hein?
Find it interesting when you talk about Shakyamuni's experience. Je trouvais intéressant quand tu nous relis ce qu'on est en train de vivre, ce qu'on est en train d'approfondir jusqu'à sa racine dans l'expérience, l'éveil de Shakyamuni, que il n'a pas. En fait, les premières personnes auprès de qui il a eu l'expérience de cette bienveillance en action, c'était des gens avec lesquels il pratiquait avant. Mm-hmm. Donc il était en lien avec eux et il savait exactement où ils en étaient, connaissait ces gens-là, donc savait quoi leur dire. Ainsi, ce mouvement dont nous font partie,
ouais.
C'est découlé de, pas du théorie en fait.
Ouais. Ouais.
Maintenant, on entend une théorie, on voit une forme qui nous roule dessus, tellement. Mais à la base, c'était l'amour entre des gens qui se connaissaient.
C'était des liens entre des gens précis. Voilà. Et c'est comme ça que la transmission peut avoir lieu.
Et donc, quand tu parles de la compassion pour soi-même, ce qui me vient à l'esprit, c'est que lorsque cette difficulté de compassion, c'est comme une difficulté de pardon, un refus. Quand j'ai difficulté de compassion, j'ai le refus du lien.
Oui.
C'est jamais, je me sens jamais nul dans le vide, c'est nul vis-à-vis, nul en tant que.
Oui, tout à fait. Et justement, quand notre bienveillance elle est mise à l'épreuve et que quand même elle continue par la compréhension, par le fait que. Même si cette personne, à un certain moment, les soi ne correspondent pas aux idées que je me fais, que je voudrais, okay, etc. Quand je suis capable de maintenir cette bienveillance, là aussi, je, 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 je ne réduis pas la personne à certaines caractéristiques, mais parce que dans tout ça, j'ai une confiance totale dans le potentiel de la personne. Hein. Et quelque part, pour revenir à la quand le Bouddha a accepté finalement d'ouvrir sa bouche et de transmettre quelque chose, c'est une confiance incroyable dans le potentiel des gens à qui il parlait, qu'ils allaient comprendre ça et que, en fait, ça faisait partie vraiment de leur nature profonde. Hein? La bienveillance, c'est vraiment la confiance dans la nature profonde des êtres humains. On pourrait dire que la bienveillance, elle ne s'arrête pas à des caractéristiques. Hein? Elle ne s'arrête pas à des manifestations ou à ce que la personne, oui, manifeste à un certain moment, elle va toujours plus loin que ça. Mais si je suis capable d'aller plus loin avec quelqu'un dans ma confiance dans sa nature, c'est que je suis aussi capable d'aller plus loin, plus profond dans la confiance de cette personne-là aussi, dans la nature profonde de cette personne. Et tellement souvent, on s'arrête à des caractéristiques, tellement souvent, on s'arrête à... Il y a un livre que je trouve très beau, qui m'a inspiré, qu'on m'a offert, et qui est d'un pasteur protestant. J'adore le titre. Le titre dit « Oser la bienveillance ». Hein? Oser la bienveillance. On prend des risques dans la bienveillance. On ne sait pas comment on doit répondre. Hein? On peut se faire rembarrer, on peut se faire... tous faire sourire à quelqu'un qui a été ému, où on a dit une parole sympathique à quelqu'un qui... n'a pas pu répondre, on prend des risques. Hein. Mais prendre le risque de la bienveillance, ça nous aide aussi à nous ancrer en nous-mêmes, dans un sens profond d'une nature qui n'a rien à voir avec les accidents, je dirais, des caractéristiques. Oser la bienveillance, c'est en fait nous permettre de nous tenir sur nos, je dirais, sur, vraiment de nous tenir sur nos deux pattes, vraiment. Et de, je lisais récemment une citation de Spinoza que je trouve vraiment très très belle et qui disait ne pas se lamenter, ne pas détester, comprendre. Mais comprendre. Hein? Je pense que ça peut être une règle de vie extraordinaire. Ne pas se moquer, c'est-à-dire ne pas créer une barrière, hein, avec l'autre, avec la situation, etc. C'est-à-dire ne pas nous séparer, parce que tout ce qui est moquerie, c'est vraiment c'est la séparation absolue. Hein. Ne pas se moquer, ne pas se lamenter, c'est-à-dire ne pas... pleurer sur notre sort, ou pleurer sur le sort de l'autre, ou pleurer sur, etc., cette espèce de qui n'est pas de la vraie compassion, en fait, mais qui est une espèce de fausse pitié ou apitoiement, disons. Ne pas détester, hein, qui est vraiment aussi une barrière incroyable, mais comprendre. Hein, comprendre. C'est-à-dire, ce que l'autre fait, ou ce que moi-même je fais, j'essaie d'en voir les causes, Mais je veux dire, là, on est. Là, ça ouvre toute la perspective de. Est-ce que les gens sont méchants ou est-ce que je suis méchant fondamentalement ou est-ce que c'est les circonstances qui me font que le mal, la méchanceté, bon, c'est quelque chose, c'est un gros problème, grosse question je dirais même, mais quelle est notre expérience de ça? Est-ce que lorsque quelqu'un est désagréable et méchant, c'est tout ce que il y a énormément de circonstances qui ont fait qu'il est arrivé là. Hein? Bien sûr, il s'agit de comprendre, hein? Ce qui ne veut pas dire qu'on accepte tout ce qui se passe, c'est pas vrai. Mais au moment où il y a compréhension, eh bien, la bienveillance, elle peut continuer à s'exercer. Et elle peut continuer à s'exercer. Dans une qui donne à l'autre, qui permet à l'autre une dimension, quelque chose peut se passer pour l'autre aussi, hein, comme par rapport à lui-même, derrière tout ça. Bon, je voudrais aussi que vous parliez, en fait. Bon, j'ai d'autres choses à dire, mais j'aimerais bien aussi que voilà.
Si tu parles de... Oui. De cette phrase, si tu parles de comprendre, en fait, tu parles de l'écoute.
Oui.
Ouais. L'écoute sans juger et de vraiment être dans la peau de l'autre.
Voilà, de se mettre dans la peau de l'autre. Mais vraiment de l'empathie, mais de vraiment d'être capable d'imaginer l'autre. Et qu'est-ce qui lui fait
de vivre la circonstance que l'autre vit, en fait. Ouais. C'est une compréhension.
Ouais. Voilà, parce que je veux dire aussi, je ne sais pas pour vous, mais la bienveillance, c'est quelque chose d'actif. Hein. C'est pas juste une absence de malveillance. Hein. Mm. Voilà. C'est comme l'amour, c'est pas juste l'absence de la haine. Hein. Soyons clairs là-dessus. Hein. C'est pas un état neutre. Hein, il suffit de ne pas être malveillant, par exemple. Non, la bienveillance, c'est vraiment un état actif dans lequel c'est le vivant qui se manifeste dans la bienveillance. Hein. On veille sur quelqu'un, on est attentif, on est alerte, on est vigilant, on accompagne, on est avec, on est présent. Hein. C'est extrêmement important, d'ailleurs. C'est pour ça que ça peut être cultivé aussi, parce que c'est quelque chose d'actif, la bienveillance. Hein. Actif dans le sens, mais vraiment un ressenti, c'est un ressenti profond. Hein. C'est pas juste une absence de malveillance, par exemple. Comme l'amour, on sait que l'amour, c'est pas juste l'absence de haine. Hein, parce qu'il y a beaucoup de gens avec lesquels c'est neutre, je veux dire, avec lesquels on peut être neutre. L'amour, c'est du vivant aussi. Hein. Oui.
Quand j'entends avec la bienveillance, je prends des risques, ça me paraît presque un paradoxe. Parce que moi, j'aurais plutôt tendance à le dire, avec la malveillance, je prends quand même des risques.
Aussi.
Des risques. Donc, qu'est-ce qui est un risque, en fait
Dans la bienveillance, ben, c'est d'être. Qu'il y a... Tu es bien disposé vers quelqu'un qui te renvoie, qui t'envoie sur les roses, ou bien même qui te... Il y a la peur de l'autre, hein, dans tout ça. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est très profondément en nous, hein, la peur de l'autre. Il y a une déclaration du Dalai Lama qui m'a toujours énormément touchée, qui disait que chaque fois qu'il va vers quelqu'un, il est persuadé que cette personne est bienveillante. C'est le Dalai Lama, d'accord. Okay. Mais maintenant, ça m'a fait beaucoup réfléchir, moi. Est-ce que je suis persuadée que l'autre est bienveillant vis-à-vis de moi quand je vais vers quelqu'un? C'est une question qu'on peut se poser, hein, et à mon avis, qu'on doit se poser. Est-ce que d'emblée, je sens que l'autre est bien disposé envers moi? Est-ce que je lui donne ça à l'autre? Je pense qu'il y a la peur. Enfin, on a un vieux mécanisme là. On a le vieux cerveau qui et sans arrêt en alerte. Il est toujours bien vivant, hein, notre, bien actif, notre cerveau reptilien, et qui, lui, regarde les dangers, hein, et qui emmagasine des situations qui pourraient être dangereuses. Il est utile parce qu'il nous a effectivement protégés de pas mal de situations dangereuses dans notre vie. Et que s'il y a vraiment quelqu'un qui arrive avec une telle malveillance qu'il a un revolver ou je ne sais pas quoi, il y aura un automatisme de fuite, etc. Et c'est très bien. Mais cet esprit, ce cerveau, il est toujours actif. Et il est en alerte. Il est en alerte. Est-ce que l'autre est un danger pour moi, hein? Vous voyez ce dont je veux parler ? Je pense que ça aussi, il faut en tenir compte. On a ça dans notre DNA, le danger que peut constituer ce qui n'est pas moi, ce qui est autre. Donc la bienveillance, oui, il faut oser, effectivement. À certains moments, il faut oser.
Dans le bienveillant, il y a prendre soin, accueillir, oui, donner, recevoir. Qu'est-ce qui fait que de bienveillant, on devient aimant?
Je crois que, bon, d'abord, il y a quelques fois, on peut être aimant avant même d'être bienveillant. Enfin, c'est le sentiment qui domine, hein, d'abord, c'est possible. Mais je pense que si on développe la bienveillance, eh ben, l'amour inconditionnel, il arrive. C'est absolument... ça fait partie de la chose. S'il y a bienveillance qui continue malgré les obstacles qu'on peut rencontrer, mais si on reste dans cette ouverture, ben, je pense que c'est là où on apprend l'amour inconditionnel. Et qu'on... C'est pour ça que je dis que... souvent, pour arriver là, il faut passer par certains tests. Hein. On teste pour savoir si c'est de l'amour inconditionnel. Hein. Et je crois que nous aussi, on passe certains tests par rapport à l'autre. Toujours dans ce continuum de bienveillance, d'ouverture, qu'on reste ouvert malgré. Hein. Je pense que la bienveillance qui continue et qui se nourrit de compréhension et qui aboutit forcément à l'amour. Forcément.
La bienveillance dérive vers le bénévolat, c'est en même terme. Bénévolat,
oui,
bien pouvoir.
Ah, oui, tout à fait. Ce désir de faire le bien, ce désir d'être là pour l'autre, tout à fait. Oui, bien sûr.
Loin, si la petite phrase de Spinoza, moi j'avais envie d'ajouter. Ne pas juger. En fait, cette petite phrase, moi, je l'ai incluse en bas de chaque email que j'envoie.
Oui.
J'ai eu quelques retours intéressants de gens. Il est tiré du livre de Frédéric Lenoir, je crois, le Miracle de Spinoza.
Oui.
Voilà.
Tout à fait. Oui, moi aussi, j'ai un moment, quand je l'apprenais par cœur, il y a un moment où j'ai mis ne pas juger dedans, puis j'ai regardé la phrase, puis c'est donc c'est pas là, elle est pas là, c'est pas dans la phrase de Spinoza.
J'ai envie de l'ajouter.
Oui, je comprends.
Ce que je trouve est vraiment excellent dans cette pratique de zen, s'asseoir, méditer et questionner très intimement, c'est que comme tu dis, dans cet ADN qui continue à dérouler, cette espèce, il va avoir toujours le sentiment qu'il y a un mur, comme Trump aime les murs. Il y a toujours un mur, like, oui, je parle de bienveillance là, mais là, nous, comme le réactionnaire dit, et si c'était ta mère, il y aurait toujours une sorte de mur où je me dis, je ne veux pas aller au-delà de ça.
Mm-hmm.
Et vraiment, j'ai énormément de énormément de gratitude pour vous qui m'ont permis de me questionner très intimement, parce que du coup je peux voir la texture de même mes plus intimes convictions. Il faut un espace, il faut un moment pour ça. C'est pas au bureau ou avec les enfants, enfin ça peut l'être, mais il aurait fallu un précédent, il aurait fallu que quelqu'un m'encourage, que d'autres personnes m'encouragent ou m'accompagnent ou m'ont parrainé dans le fait de me questionner intimement sur ce que c'est d'être moi. Et du coup, il peut arriver un moment où je suis même pas sûr quels sont les intimes préjugés. Peut-être ça paraît intime à un moment donné. Si quelqu'un fait une blague, peut-être tu n'auras pas cet intime préjugé à ce moment-là. Et du coup, je peux voir ce que j'ai en commun avec l'autre.
Oui, oui, oui. Bien sûr, on a besoin de cet espace-là.
Mais, par exemple, ce que je décrivais dans ce moment où on s'assoit tous ensemble, et c'est très clair que c'est un support incroyable de s'asseoir ensemble. On fait des retraites où on s'assoit 7 à 8 heures par jour. Ce serait très difficile de s'asseoir 7 à 8 heures par jour tout seul. C'est pas difficile de le faire en groupe. Regardons ça comme un espace de bienveillance, mais vraiment de bienveillance où tout est accueilli. Il n'y a rien qui ne devrait pas être là. Il n'y a personne qui ne devrait pas être là. Il y a, même par rapport à nous-mêmes, la méditation elle-même, on a beaucoup d'idées sur ce qui devrait, à certains moments, sur ce qui devrait faire partie de la méditation, ça cette pensée-là, non, celle-là, oui, celle-là, elle est permise, celle-là, non, j'aimerais mieux pas la voir, celle-là, etc. Vous connaissez ça, je pense. Est-ce que c'est ça dont il s'agit dans la méditation? Est-ce que je fais bien? Mais peut-être qu'il ne faudrait pas penser à ça, il faudrait plutôt penser à ça, etc. Est-ce que je peux développer justement un espace de bienveillance où j'accueille la chose? J'accueille la chose sans m'y attacher et sans la rejeter. Très difficile, la chose. C'est-à-dire, je ne m'attache pas à la chose qui est bonne, en général, parce que c'est ça qui me plaît. Ou qui est mauvaise, mais qui, du coup, ça me fait plein d'histoires, je construis toute une histoire parce qu'elle est mauvaise et que je ne devrais pas la voir, etc., etc. Sans attachement, sans rejet de la chose qui est de la pensée, de l'émotion, etc., que je n'aime pas. Mais de laisser vraiment ça être dans cet espace-là. Et si s'il n'y a pas d'attachement et s'il n'y a pas de rejet, les choses, elles bougent. La permanence, ça n'existe pas. On peut éventuellement s'attacher énormément à quelque chose qui va rester un petit peu, mais même cette chose-là, cette pensée, cette émotion, cet état, il va rester pendant un certain temps, mais même le temps qui reste, il va déjà bouger énormément. Okay. Est-ce que je peux, dans cet espace vraiment d'acceptation, de tolérance, de bienveillance, est-ce que je peux laisser venir et repartir les choses? Voilà. Là, je vous ai dit, c'est la méditation. Là. Pas de saisie et pas de rejet. C'est pas plus compliqué que ça. C'est compliqué en fait. Pas de saisie, pas de rejet. Mais c'est.
C'est compliqué, c'est facile.
Mais c'est facile aussi.
Il y a un mot qui vient et je pense qu'on tourne autour, mais peut-être on l'a dit, c'est l'acceptation de l'instant présent. Et je pense que dès qu'on accepte que c'est comme ça, on est dans la bienveillance. C'est-à-dire,
absolument,
dès qu'on accepte que ce qu'on est en train de vivre, c'est ce qu'on est en train de vivre, sans jugement, sans que ça soit bon ou mauvais, dès qu'on peut accepter que l'autre est comme ça, on est dans l'acceptation. Et pour moi, il y a aussi le mot gratitude, parce que la gratitude ouvre le cœur, et quand le cœur est ouvert, il y a la bienveillance. Donc, et on est lié à soi-même, bien sûr, et on est intimement lié à l'autre, parce qu'on est l'autre, l'autre est nous. Je pense que... Bon, ce sont des mots... on ne peut pas le dire comme ça, c'est une expérience à vivre, mais quand on est dans l'acceptation, on est avec l'autre, l'autre est avec nous, il n'y a pas de différence.
On est dans, quand on est dans l'ouverture,
et on est dans la bienveillance,
et on est dans la compréhension, et on est dans... Oui, tout se tisse, tout se mêle. Quelqu'un voudrait dire encore quelque chose?
Donc, je voudrais juste citer, là, tu parlais d'affection d'une grand-mère en fait. Et dans l'Eta Sutta, on parle d'affection d'une mère en fait. Comme une mère au péril de sa vie, surveille et protège son unique enfant. Ainsi nous en chérions toute chose vivante.
Tout à fait.
Oui, je crois au début, tu disais qu'on est, on est tous des réfugiés. Tu vois, et il y a donc ce sens de confiance, dans la pratique de la bienveillance. Il y a une confiance dans l'inconnu quelque part. Et il y a une ouverture. Voilà, il y a une ouverture du cœur avec quelquefois ce qui peut être très tendre et douloureux ici. Très vulnérable et faire un petit peu mal, et quand même on peut rester avec ça, et une confiance que dans la capacité en chacun de devenir soi-même, voilà, et non pas de devenir quelqu'un d'autre, ou un projet qu'on... même un projet spirituel.
Merci. Attendez, il y a quelqu'un encore.
Il y a un mot qui me vient suite, puisque j'ai cette métaphore de la mère et de l'enfant. La bienveillance, est-ce qu'on pourrait penser à quelque chose d'un de connaissance? Une connaissance, c'est-à-dire que...
Connaissance.
Dans l'instant, il y a cette naissance ensemble, et puis la connaissance de la nature profonde, et la mort de tous les préjugés et projections. C'est quelque chose de très fin et très délicat, en fait.
Oui.
Voilà, c'est ce mot qui me vient, connaissance. Et je me demande si ce mot qui me vient, c'est pas une connaissance, je ne me souviens plus du tout. C'est le poète Paul Claudel, là, qui a un très très beau poème dans les eaux de Porte de la Vertu, je ne sais plus exactement le titre. Et il avait cette, un mot, je ne sais plus si c'est connaissance ou co... mais je trouve ça intéressant, en tout cas, de faire jouer ce mot connaissance, reconnaissance, vie à mort dans l'instant, cette délicatesse avec le mot bienveillance.
Oui, merci.
J'entends. Plus grand obstacle, quand tu parlais de avec toi et ton enseignant, c'était l'exemple que tu donnais de ton expérience de bienveillance, c'est ça?
Quel était l'obstacle?
D'incarner la bienveillance. Parce que moi, je te connais comme quelqu'un de très bienveillant. Peut-être que toi, tu jouais comme ça. Comme ça.
Je ne ferai pas de commentaires sur ce que je suis maintenant, je ne peux pas le savoir, mais
Je me sens bienveillante, c'est vrai. C'est merveilleux de sentir de la bienveillance. C'est vraiment... C'est une ouverture, je veux dire, c'est une grâce pour moi de se sentir bienveillant. C'est une grâce de vouloir vraiment le bien de l'autre, en fait. C'est, bon, comme je dis, c'est le lien aussi, c'est de se sentir en lien avec l'autre, hein, de se sentir proche. Même si l'autre est très différent. Hein. Avec mon maître, c'était autre chose. Moi, je ne me sentais pas du tout bienveillante. J'étais plutôt dans les souvenirs que j'ai, mais bon, c'est des souvenirs qu'on a. Hein, moi, je voulais des choses. Je voulais acquérir des choses. Je voulais comprendre. Je voulais m'améliorer. Je voulais... Je pensais qu'il avait des choses que moi j'avais pas et que je voulais. Je pense que c'est ça aussi, c'est pour ça qu'on est inspiré par les gens, c'est qu'on a l'impression qu'ils ont des qualités qu'on n'a pas mais qu'on veut développer, en fait. Hein. On s'est tous développés par mimétisme, en fait, en imitant. C'est comme ça qu'on se développe. Hein. Les neurones miroirs, là, maintenant, tout le monde est au courant. Hein. C'est comme ça qu'on se développe, c'est en imitant. Donc, l'inspiration que nous donne quelqu'un, c'est merveilleux, en fait. Hein, parce que c'est comme ça qu'effectivement, on va connecter avec des qualités que... Si je vois ces qualités de l'autre, c'est qu'il y a quelque chose en moi qui résonne. Et si je veux ces qualités, c'est que, quelque part, j'ai le potentiel de les avoir. Hein. Donc c'est merveilleux, en fait, l'inspiration. Et il faut vraiment totalement accepter et valoriser le fait qu'on est inspiré par des gens. Moi, quand j'ai entendu le Dalai Lama dire « Ma religion, c'est la bienveillance », c'était, mais ça m'a tellement touché, ça m'a inspiré. Je me suis dit, mais oui, bien sûr. Voilà. C'est pour ça qu'aussi qu'il faut savoir ce qu'on veut développer. Hein. D'ailleurs, on apprend par mimétisme, on apprend par inspiration. Qu'est-ce que je veux développer? Voilà. Et ta question, c'était quelle est bien, okay. Je ne suis plus très sûre de quelle était la question.
Les obstacles.
Tu en avais parlé.
Ouais, les obstacles. Bon, je ne veux pas parler des obstacles dans la relation avec le maître, parce que là, on en a pour deux jours. C'est une autre histoire.
Ce que j'entends dire, c'est que dans un premier temps, tu te sens différent que l'autre, en quelque sorte.
Bien sûr.
Mais c'est le mieux dont... Permets-moi de dire, c'est le mieux dont tu as été capable à ce moment-là.
Tout à fait.
Et ça, c'est important parce que ça a pu alchimiser.
Tout à fait.
Donc, ce que ça m'inspire en moi, c'est la capacité de vraiment essayer de mettre là où je suis.
Ben oui, on est là où on en est. Et justement, là, c'est un point très important, la bienveillance. Elle est à la fois consciente du potentiel de l'autre, mais elle est aussi complètement attentive à là où il en est. Exactement là où il en est. Ça, c'est vraiment la bienveillance. C'est on voit l'autre là où il en est. Dans son devenir possible, bien sûr, mais c'est vraiment cette acceptation de l'autre tel qu'il est à ce moment-là. C'est très important, ça.
Oui. Et pourtant, c'est difficile de parfois accepter... l'endroit où l'autre est, parce que c'est extrêmement douloureux pour nous.
Oui, oui.
Alors comment faire?
C'est pour ça qu'on veut changer l'autre à ce moment-là. Mais carrément, du genre, ne pleure pas. Pourquoi on dit ne pleure pas? Si l'autre a besoin de pleurer, il a besoin de pleurer. On ne pleure pas parce que j'ai du mal à supporter ses pleurs, en fait. Hein. Voilà, c'est-à-dire que là, il faut que je reconnaisse que
Je connais cette souffrance et c'est pour ça que j'ai du mal à la supporter. Je connais la souffrance de l'autre à ce moment-là. Ouais. C'est là, c'est... Il faut s'agrandir au point de pouvoir vraiment supporter notre propre douleur que je vois dans l'autre. Bien sûr. Bien sûr. Mais c'est, il faut vraiment regarder à quel point je ne veux pas voir la douleur de l'autre à certains moments parce que c'est trop douloureux.
Qu'est-ce que ça veut dire s'agrandir?
Être capable de supporter cette douleur. Voilà. Et de savoir que je ne suis pas que cette douleur aussi. Et que l'autre n'est pas que cette douleur aussi. Je pense que quand il y a une totale identification à la douleur, quelque part, c'est très difficile à supporter. Quand je sais que je ne suis pas que cette douleur, je peux la supporter. Et je peux supporter celle de l'autre aussi, parce qu'il n'est pas que cette douleur. Bon, je vais finir par cette histoire parce que c'est une histoire qui m'a beaucoup inspirée, moi. C'est l'histoire d'une femme qui a perdu son enfant et qui pleure vraiment sur cette mort, la mort de cet enfant, et qui va voir le Bouddha et qui lui demande s'il te plaît, aide-moi. Et le Bouddha lui dit ok, je peux t'aider. Je peux t'aider dans cette douleur, mais il faut que tu me rapportes des graines de moutarde que tu auras demandées dans une maison du village, dans la maison où tu pourras trouver ça. Et là, mais dans cette maison, il n'y aurait pas dû avoir de mort. Okay. Donc la femme... dans la première maison du village, elle dit, voilà, est-ce que vous avez des graines de moutarde? C'est un aliment très commun en Inde. Et là, bien sûr, est-ce que vous pouvez m'en donner? Bien sûr. Est-ce qu'il y a jamais eu des morts dans... Ben oui, il y a eu des morts dans ma maison, bien sûr. Et elle va dans toutes les maisons du village. Et il n'y a jamais eu de mort. Il n'y a jamais eu d'une maison où il n'y a pas eu de mort. Okay. Qu'est-ce qui se passe pour cette femme à ce moment-là? Elle revient vers le Bouddha et voilà. Le Bouddha lui dit, c'est la seule manière qu'il pouvait l'aider. Qu'est-ce qui s'est passé pour cette femme? Elle a été exposée constamment à toutes les souffrances de la séparation, de la mort de chaque maison. Son enfant, il est toujours mort. Hein? Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a partagé cette souffrance. Ce n'est plus... une souffrance. Bernie Glassman a vraiment une belle expression, je trouve. Selfish et selfless. Il y a une souffrance qui est égoïste. C'est moi, je. Il n'y a que moi qui ça m'est arrivé. Hein, on connaît ça. Il y a un moment de souffrance où on a l'impression que ça n'est jamais arrivé à personne d'autre au monde. Ça. Il n'y a que moi. Et puis il y a une souffrance qui est selfless, qui n'est pas centrée sur moi en fait, hein, et qui peut être quand même ma souffrance, hein, qui peut être quand même ma souffrance, mais elle n'est plus dans ce pauvre de moi, il n'y a qu'à moi que c'est arrivé, hein. Et ça, c'est vraiment une transformation profonde de notre sentiment de souffrir. Quand je m'aperçois que ma souffrance, elle est commune. D'ailleurs, c'est quelque chose que moi, ça m'arrive de faire assez souvent, c'est quand je suis coincée sur quelque chose qui est vraiment douloureux pour moi, j'imagine le nombre de gens à qui c'est arrivé ça aussi. Hein? En cas d'avoir perdu un enfant, je connais. Il y a tellement de femmes à qui c'est arrivé. Et quelque chose se transforme là. C'est pas que la souffrance, elle disparaît,
mais non, elle s'élargit quelque part. On est en lien, on est en relation, on est en... On la sent en commun, en fait. Je dirais que... C'est, bon, on a tous dit, par exemple, si on a une difficulté grave dans la vie, et si on parle à quelqu'un qui connaît cette difficulté, qui est passé par la même chose, il y a un sentiment de soulagement presque. Waouh, ok. Il y a cette communion, je dirais, en fait. Hein. Voilà, c'est là où, quelque part, on est plus complètement identifié à une souffrance personnelle, exclusivement personnelle. Elle est partagée, en fait. Et ça change beaucoup de choses. C'est comme ça pour moi, on peut pas en dire, quoi, en fait. Alors, on va chanter les quatre vœux.
Oui.
Des vœux, pour ceux qui n'ont jamais été exposés à ces vœux, c'est des vœux impossibles et qui sont merveilleux et qu'on tient quand même, bien qu'ils soient impossibles.
Insurpassable.